J'ai 30 ans maintenant et je suis ancien combattant du YPG, l'armée des Kurdes syriens. J'étais sur place deux fois entre 2015 et 2017.
T'étais là-bas en tant que combattant, t'as participé au combat
En tant que
avec.
combattant internationaliste, et j'ai participé, voilà, j'étais sur le front en défense et j'ai participé à trois offensives, sinon à Al-Hol en 2015, Chedaber en 2016 et Raqqa en 2017.
Tu pourrais nous présenter pourquoi tu as été là-bas, ce que ça voulait dire de s'engager dans une brigade internationaliste?
J'y suis allé parce que j'étais militant communiste de longue date déjà à l'époque et j'ai pris conscience petit à petit de ce qui se passait au Rojava à partir de fin 2014, début 2015. J'ai vu que il y avait la lutte contre l'État islamique, mais au-delà de ça, il y avait derrière une révolution qui était basée sur la démocratie directe, sur l'égalité homme-femme, sur le partage des richesses, sur l'écologie, et qui étaient des valeurs que moi je partageais en tant que militant en France. Et donc j'ai assez vite pris conscience qu'il fallait que je m'engage pour soutenir cette révolution et que cet engagement serait un engagement armé vu le contexte. Et le fait que la survie de cette révolution était, la condition de cette survie, c'était une victoire militaire contre l'État islamique et contre les autres ennemis du peuple du Rojava, qui était le régime syrien et la Turquie.
Ok, et est-ce que tu pourrais nous présenter un peu quoi ça ressemble une brigade internationaliste, d'où ça vient, ce que ça veut dire que de participer à ça?
On était plusieurs centaines, il n'y a pas de chiffre officiel, mais plusieurs centaines de combattants internationalistes, avec plusieurs générations de combattants qui sont venus au fil des ans entre 2015 et 2019. Il y avait différentes motivations. Certains étaient des anciens militaires, pour la plupart, qui se réclamaient d'aucune idéologie et qui venaient juste combattre l'État islamique. D'autres se décrivaient comme des humanistes ou des aventuriers. Et enfin, troisième catégorie, c'était les militants communistes ou anarchistes. C'est pas des catégories qui étaient fermées les unes aux autres. Il y a des individus qui ont eu des trajectoires là-bas, qui sont arrivés en tant que militaires, apolitiques, et qui sont repartis en tant que combattants révolutionnaires convaincus. Donc voilà, mais c'était les trois groupes. Et ensuite, on avait un entraînement de 3 semaines assez minimaliste, avec aussi des cours de langue, des cours théoriques sur le fonctionnement des armes, pas beaucoup de pratiques, et on était envoyé après dans les unités respectives. Voilà, c'était vraiment à la demande. Il y en a qui allaient dans des unités avec uniquement des combattants internationalistes, d'autres qui voulaient être seuls dans une unité kurde. Il y avait beaucoup d'unités différentes, beaucoup de spécialités. Voilà, les possibilités étaient larges en fonction du degré d'implication que chacun voulait avoir là-bas.
Et par rapport à ce que tu décris de la démocratie directe au Rojava ou le communalisme, ça vous participiez aussi à son fonctionnement au quotidien?
On le vivait, on y participait, mais à l'intérieur des forces armées, en tant que volontaire, on appartenait au BRPG, à cette organisation militaire, on était sur le front en permanence, on n'avait pas la liberté d'aller visiter, voilà, on était membre de l'organisation et on devait suivre cette discipline et ces règles-là, mais à l'intérieur des forces armées, les principes de la révolution s'appliquent également. Et il y a par exemple comme des sortes de conseils de combattants où chacun se réunit dans son unité et peut discuter avec une totale liberté de parole de ce qui va, ce qui va pas, éventuellement faire une autocritique ou critiquer un autre membre du groupe, quelle que soit sa place dans la hiérarchie. Et c'est pas simplement un exutoire. C'est-à-dire, s'il y a vraiment des critiques répétées à l'encontre même d'un commandant, ce commandant sera remplacé à terme. Donc, il y a aussi une démocratie directe au sein des forces armées, et c'est vrai que c'est la chose, forcément, c'est l'aspect de la révolution que nous, on a le plus directement vécu, mais c'est vrai que c'est une chose qui m'a beaucoup surpris, parce que je ne pensais pas qu'une organisation militaire pouvait être efficace et à la fois s'appliquer des mécanismes de démocratie directe, et j'ai vu vraiment que ça pouvait fonctionner. Donc ça, c'était vraiment un point qui m'a impressionné, un parmi d'autres, mais celui auquel l'aspect de la révolution que j'ai vécu en premier, quoi.
Et du coup, tu disais que tu étais allé deux fois sur deux temps, enfin voilà, t'es rentré en France entre-temps. Comment ça s'est passé pour toi le retour? Est-ce que tu avais imaginé avant de partir être accueilli de cette manière au retour?
Quand je suis parti, je suis parti parmi les premiers en 2015 et aucun Français n'était revenu en France à ce moment-là. Donc il y en avait quelques-uns, peut-être 5, moins de 5 qui étaient déjà sur place, mais personne n'était revenu, donc je ne savais pas quelle allait être l'attitude des autorités vis-à-vis de moi à mon retour, mais j'en avais absolument rien à faire à ce moment-là. Quand on part là-bas, on se doute qu'on peut y rester. Donc vraiment, le comportement de la police en retour, déjà, c'est une hypothèse, et après, c'est vraiment le cadet de nos soucis, quoi. Mais quand je suis revenu, le premier retour était un peu particulier, parce que j'étais mis en prison quelques jours au Kurdistan irakien, donc le consulat était prévenu, donc la police de toute façon savait très bien qui j'étais et quand est-ce que j'allais revenir. Et à la sortie de l'avion, il y avait un comité d'accueil du coup de la police aux frontières qui était là. Et en fait, je leur ai même pas parlé, ils m'ont accompagné au commissariat de l'aéroport. J'aurais rien demandé, ils m'ont rien demandé, et après quelques minutes d'attente, ils m'ont montré une porte, et en fait c'était la sortie, et je suis parti, voilà, sans explication. Je me suis dit, bon, je me doutais que j'allais entendre parler d'eux de nouveau, et peut-être un mois après, j'ai reçu une convocation écrite à la main sur une vieille photocopie faite de travers. Enfin, c'était un peu étrange. Je me suis même demandé si je devais prendre ça au sérieux. Et en fait, c'était bien la DGSI qui me demandait d'aller à leur siège à Levallois, à côté de Paris. Je m'y suis rendu et là, à ce moment-là, j'avais déjà un peu plus de recul. Donc, je savais que j'avais rien fait d'illégal. Je savais qu'a priori, ils n'avaient rien pour me mettre la pression. Voilà, j'y suis allé. Par curiosité aussi, parce que je me doutais que sinon ils me feraient venir d'une manière ou d'une autre. Et arrivé là, bon, ils avaient une posture, ils étaient un peu mielleux, ils avaient une posture comme s'ils voulaient sympathiser avec moi, à dire voilà, non, on n'est pas là pour vous inquiéter, vous n'avez rien fait d'illégal, mais racontez-nous votre parcours sur place. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans les grandes lignes. Et il y avait aussi pas mal de questions sur les autres Français qui étaient là-bas. Ça, c'était l'autre chose qui les intéressait. Alors évidemment, pour les protéger, ils insistaient. Bon, je leur ai dit que je n'avais pas croisé. À ce moment-là, on était assez peu nombreux, donc ils ont fini par lâcher l'affaire. Et je suis parti, je me suis entraîné qu'en partant, avant d'ouvrir la porte, il y a un des deux policiers qui m'a dit. Bon, en revanche, vous restez discret, faites profil bas, quelque chose comme ça. Donc, déjà, à ce moment-là, on sentait qu'il y avait l'envie de nous faire taire, quoi, directement. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant plusieurs mois. Peut-être 6 mois plus tard, quand j'ai voulu retourner au Rojava. Donc là, on était en décembre 2016. 2 jours avant que je prenne l'avion, j'ai la DGSI, en tout cas des policiers qui débarquent chez moi. Ils saisissent mon passeport, ma carte d'identité, et ils me remettent une pile de documents qui m'informent que je suis accusé de lien avec l'émanation d'une organisation terroriste et que je suis accusé de vouloir utiliser l'expérience militaire que j'ai eue au Rojava pour mener des attaques contre les intérêts français en lien avec l'ultra-gauche révolutionnaire. Là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est vraiment mot pour mot ce qui figurait sur le document, avec voilà, tout un tas de choses plus délirantes les unes que les autres. Ils disaient qu'ils avaient des informations sur moi, mais qu'ils ne pouvaient pas les communiquer au tribunal parce que c'était secret défense. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, au résultat, j'ai pris un avocat, Maître Kempf, qui est aussi l'avocat de notre camarade qui est emprisonné en ce moment. Et j'ai contesté le retrait de mes papiers devant le tribunal administratif de Paris, qui m'a donné gain de cause quelques mois plus tard, en disant deux choses qui étaient très importantes. Déjà qu'il n'y avait aucune preuve de ma dangerosité, mais surtout que le GPG ne pouvait pas être considéré comme une organisation terroriste. Et ça venait complètement balayer l'argumentaire de la DGSI. Et voilà, après ça, j'ai pu retourner au Rojava en 2017.
Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé dans le cerveau des gens de la DGSI entre le moment où tu rentres et 6 mois après où ils t'empêchent de repartir? Enfin, tu vois, leur attitude, elle est vraiment différente, quoi.
Ouais, je pense que c'est sûr que j'ai été surveillé, mais ils n'ont pas fait pour tout le monde, en fait. Assez vite, une fois qu'il y a eu quelques Français qui sont venus à revenir, on a compris qu'il y avait une différence de traitement entre ce qui était des bons volontaires aux yeux de la DGSI, c'est-à-dire les Français qui sont allés là-bas, qui sont pour des raisons autres que des raisons politiques, des gens qui se disaient qui n'étaient pas engagés politiquement en France et qui se réclamaient pas d'une idéologie révolutionnaire. Eux, ces volontaires-là, parfois n'étaient même pas convoqués par la DGSI, ou alors n'ont pas eu de problème pour retourner sur place ou pour circuler. Et il y avait la deuxième catégorie, celle des militants révolutionnaires. Et là, la DGSI nous appliquait un traitement spécial avec surveillance et surtout avec cette idée dès le départ que puisqu'on était allé prendre les armes là-bas, on représentait un danger à notre retour en France. Et cette idée-là, elle a été vraiment créée à partir de rien. Et en fait, avant même que l'un d'entre nous revienne en France, c'est ça que j'ai compris assez rapidement. C'est que pour eux, voilà, si on a pris les armes sans même réfléchir à ce que ça signifie de prendre les armes au Rojava et à quel point c'était nécessaire, une lutte d'autodéfense, et eux transposent ça directement en France en disant, puisqu'ils ont fait ça là-bas, ils vont vouloir importer cette violence révolutionnaire et la ramener avec eux en France. Et c'est une idée non seulement qui repose sur rien, et en plus aucun d'entre nous n'a jamais tenu des discours dans ce sens, c'est vraiment eux qui se sont créés ce fantasme-là, et à partir de là, on voyait bien qu'ils cherchaient à faire rentrer quelqu'un dedans. Donc ensuite, il y a d'autres camarades qui ont eu des pressions de différentes manières sur leur entourage, sur leur famille, qui ont été convoqués, voilà, qui étaient retenus à l'aéroport et qui ont été en contact avec eux. Et voilà, ils essayaient de faire rentrer quelqu'un dans ce moule-là, d'autant plus que dans mon cas, ça a été quand même un échec, à mon avis, qu'ils ont mal digéré. Et on savait qu'ils n'allaient pas lâcher l'affaire, qu'ils continueraient à me surveiller jusqu'à ce qu'ils finissent par pouvoir confirmer cette théorie-là qu'ils avaient depuis des années. Et voilà, jusqu'à ce qu'ils finissent par avoir gain de cause.
Ça te surprend pas, toi, en fait, qu'on utilise cette histoire du Rojava pour aller sur le camarade là en ce moment, quoi?
Ça m'a absolument pas surpris parce que c'est exactement dans la droite ligne de tout l'argumentaire délirant de la DGSI depuis des années, en fait, depuis 2015. Et encore une fois, un argumentaire qui repose sur rien, quoi. Ni sur nos actes, ni sur nos propos. Voilà, c'est vraiment du vent, quoi. Et non, du coup, ça m'a pas surpris qu'ils reviennent à la charge avec ça et que dans l'affaire qui concerne notre camarade, ça a été bien mis en avant par la presse pour faire trembler dans les chaumières, quoi. Cet anarchiste qui a une expérience du combat, qui a appris à utiliser des armes. Et voilà, tout ça, c'est vraiment les éléments, la construction de la DGSI, quoi, qu'ils ont distillé dans la presse ces derniers mois depuis l'affaire.
Moi, ce qui me surprend dans ce que tu dis, c'est que l'argumentaire dont tu parles, etc., c'est quand même l'argumentaire qu'on voit à l'œuvre au sein du régime syrien pour qualifier les mouvements révolutionnaires. C'est aussi, dans une autre mesure, l'argumentaire de la Turquie pour s'opposer à ce qui se passe au Kurdistan. Je trouve ça quand même... je ne sais pas comment toi tu penses la chose. Il y a un rapprochement entre ces deux argumentaires-là. J'ai un peu de mal à comprendre comment ça peut fonctionner.
Alors oui, effectivement, et du coup, il y avait quand même cette contradiction majeure pour la DGSI qui était que l'État français a aidé les Kurdes syriens dans la lutte contre l'État islamique parce qu'il y avait une convergence d'intérêts à ce moment-là. Et du coup, pour contourner ça, la DGSI essayait d'utiliser l'argument de d'émanation d'un groupe terroriste pour parler du YPG, qui lui-même n'est pas un groupe terroriste, mais qui viendrait du PKK, qui lui est considéré comme un groupe terroriste par l'Union européenne. Et du coup, ils ont essayé de bricoler ce lien, mais encore une fois, qui a été balayé par le tribunal administratif, en disant ce lien-là, qui était fondamental dans l'argumentaire, ne tient pas. Après, oui, l'argumentaire de la DGSI, finalement, il ressemble à beaucoup d'autres. C'est un discours de criminalisation des mouvements révolutionnaires, et ça, c'est assez classique. Donc oui, ça repose finalement un peu toujours sur les mêmes mécanismes. Mécanismes même qu'on a vu à l'œuvre dans d'autres pays européens qui ont aussi poursuivi nos camarades de différentes manières quand ils sont rentrés chez eux, quoi.
Ouais, c'était notre question d'après, c'est est-ce que tu sais comment ça se passe dans d'autres pays d'Europe, et est-ce que c'est assez similaire? Est-ce qu'il y aurait une politique européenne de gestion des camarades combattants et combattantes au Rojava, quoi?
Alors oui, il y a quand même une tendance qui s'est dessinée au fil du temps, c'est celle d'une répression, mais limitée aussi par le fait qu'on ait combattu l'État islamique. C'est, pour moi, c'est ce qui nous a protégés, c'est le fait que l'ennemi qu'on avait en face, ça a été pendant longtemps l'État islamique, à la fin de l'État turc pour certains, mais l'État islamique. Et donc, à mon avis, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait pour ça, parce que peut-être qu'aux yeux de l'opinion, ce ne serait pas passé qu'on nous mette carrément en prison dès notre retour en France parce que on avait combattu l'État islamique qui avait mené des attaques meurtrières en Europe. Après, il y a eu différentes attitudes au fil du temps. En Espagne, deux camarades espagnols qui sont partis très tôt au Rojava, qui sont rentrés en 2015, ont été mis en prison pendant quelques mois, puis libérés. Au Royaume-Uni, vous avez un retrait systématique des passeports pour les volontaires qui revenaient chez eux, à part ceux qui étaient des informateurs de la police, parce qu'il y en a eu, et il y en a eu parmi les Français aussi, ça c'est encore autre chose. Il y a un camarade britannique qui a été emprisonné, et je crois qu'il l'est toujours, mais lui, il y avait un mélange d'affaires, de délinquance. Et pour vraiment le mettre en prison, ils ont ajouté, en plus, il est parti en Syrie, il a transité par un camp du PKK, et donc ils ont fait une sorte de grand paquet où ils ont mis les deux ensemble, ils l'ont mis en prison. Donc il y a eu ce cas-là. Au Danemark, il y a une camarade qui a été emprisonnée quelques mois également. En Italie, il y a plusieurs camarades contre qui l'État a utilisé une loi héritée de l'époque fasciste qui permettait vraiment de les mettre au ban de la société en disant qu'ils étaient socialement dangereux. C'était le terme qui était utilisé par cette loi. Et une camarade, notamment, s'est vue, elle a été poursuivie sur le long terme où on lui a retiré ses papiers, elle ne pouvait plus vivre dans sa ville d'origine. Elle n'avait plus de permis de conduire, elle ne pouvait plus avoir d'existence dans la société, quoi. En France, il y a eu des pressions, et puis avant l'affaire qui concerne notre camarade, il y avait eu mon histoire de passeport, mais voilà, la tendance qui se dessine quand même en Europe, en Allemagne, il y a eu beaucoup de retraits de passeport également. Les anciens militaires qui partaient au Rojava étaient menacés d'emprisonnement au retour chez eux, donc il y en a qui sont pas rentrés du tout, qui sont installés dans un autre pays. Donc oui, il y a eu une répression dans la plupart des pays d'Europe, mais quand même une répression qui était limitée, à mon avis, par le fait qu'on avait combattu ceux qui avaient mené des attaques meurtrières en Europe, et donc qu'aux yeux de l'opinion publique, on ne pouvait pas être sanctionné trop ouvertement, ou en tout cas pas il y a quelques années, parce que le souvenir de ces attaques était trop frais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris.
Ouais. Et une répression qui, comme enfin tu le disais tout à l'heure, qui globalement s'abat sur des gens qui sont des militants révolutionnaires, quoi.
Oui, quasi systématiquement. Ça, c'est sûr que pour eux, en tout cas, voilà, pour ça a été le cas aussi dans d'autres pays d'Europe, mais on voit bien que à leurs yeux, c'est vraiment un facteur aggravant, et presque c'est ça qui nous rend dangereux. Donc en fait, c'est vraiment un délit d'opinion. Et dans le cas de la France, mais c'est pareil en Italie, hein, les services de renseignement travaillent en fait vraiment comme une police politique, quoi, où ils font le tri à l'intérieur des volontaires sur des critères idéologiques de à qui on peut faire confiance et à qui on peut pas, et qui on doit surveiller et qui on peut laisser reprendre le cours de sa vie une fois qu'il est rentré chez lui, quoi. Après, voilà, pour moi, ces dernières années, ça a été plus le prolongement de la lutte là-bas, ça a été de témoigner aussi de ce que j'avais fait, parce que les Kurdes nous l'ont demandé à tous, quand on rentrait chez eux, d'être des ambassadeurs de cette cause-là. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, et ça, c'était le prolongement de notre combat là-bas. Maintenant, c'est vrai que ça reste à redéfinir ce que sera mon avenir militant, et il faut que je le définisse. Ça dépend pas que de moi aussi, hein. Ça dépend de comment est-ce que évolue le monde aussi, et quelles sont les perspectives, les possibilités de lutte à travers le monde. Après, oui, clairement, ça a changé ma façon de voir les choses, dans le sens où ça, je le voyais aussi avant, mais pour moi, l'engagement armé, c'est le summum de l'engagement politique. Je l'ai toujours pensé, et après l'avoir vécu, ça a fait confirmer ce que je pensais au départ. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est devenu mon seul moyen d'expression politique. La lutte armée, elle est appliquée dans certains contextes, et ce n'est pas une recette systématique qu'on doit appliquer partout, tout le temps. Et voilà, et ça, malheureusement, c'est ça que la DGSI ne comprend pas.
Est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'avec ce qui est en train d'être mis en place, là, en termes de répression, il y a aussi un travail d'effacement qui est en train de se faire de la lutte, et peut-être dans la mesure où je ne sais pas, où ça vient aussi appuyer des logiques de... des logiques étatiques, par exemple via la Turquie, etc., pour effacer ce qui peut se passer au Rojava.
Honnêtement, je pense pas que l'attitude, cette répression-là, de la part du Parlement français, je pense pas qu'elle soit dirigée contre ce qui se passe au Rojava. Mmh. À mon avis, elle est aussi plus dirigée en interne vis-à-vis du contexte politique en France. Et... de nous criminaliser, ça a été toujours, à mon avis, quelque chose qui était plus large que le Rojava en lui-même. C'est plus à partir du moment où ils doivent, où ils essaient de décrédibiliser et de criminaliser tout le mouvement révolutionnaire en France au sens large, bah, ils peuvent nous sortir, nous, comme des épouvantails, même si en fait on n'est qu'une dizaine, mais parce qu'il y a voilà, tout ce côté. Lutte armée et tous les clichés qui vont avec, et donc du coup ils nous utilisent un peu comme des épouvantails de temps en temps pour essayer d'effrayer le plus grand nombre sur le mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Je pense que l'État français, on a un peu rien à faire de ce qui se passe au Rojava en tant que tel, de la révolution au Rojava, à mon avis, ça ils s'en moquent, quoi.
Oui, donc pour toi, c'est vraiment un outil de politique intérieure. C'est pas pour donner des signes, oui, éventuellement à d'autres pays. C'est pas motivé par des enjeux internationaux.
Oui, là-dessus, pour moi, l'intention première, elle est là. Après, c'est sûr que indirectement, ça leur permet de. C'est des choses qu'ils mettent en avant, j'en suis sûr, dans leur relation avec la Turquie. Régulièrement, il y a des arrestations parmi les militants kurdes. Il y en a eu récemment. il y a une semaine à Draguignan, à Marseille, à Paris, il y a eu un coup de filet important juste après une discussion téléphonique entre Macron et Erdogan. Et là, c'est sûr que c'est clairement une façon de montrer à la Turquie que la France fait son sale boulot sur son territoire en arrêtant les militants de la cause kurde. Et d'ailleurs, les services secrets turcs, depuis des années, pondent des rapports disant que qu'on est une menace, nous, spécialement en tant que volontaires internationalistes, et que en rentrant chez nous, on va amener avec nous la violence du conflit syrien. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans des rapports qui ont été rendus publics par les services secrets turcs, des rapports en anglais. Et c'est l'argumentaire de la DGSI, mais tout ça, ça vient des services secrets turcs. Et quand il y a eu l'arrestation de notre camarade l'hiver dernier, eh ben, on a bien vu les Turcs, y compris certains membres de l'ambassade de Turquie en France, qui ont posté des tweets victorieux en disant « on vous l'avait bien dit ». En fait, c'est, tout ça, c'est une vieille chanson de l'État turc depuis 2015 qui dit « regardez comme ils sont dangereux ». Donc oui, il y a aussi un lien avec la politique extérieure de la France, mais pour moi, c'est l'objectif premier est plus en interne, quoi.
Est-ce que il y a quelque chose qui te semble important que tu voudrais dire auquel on n'aurait pas pensé?
Bah, juste rappeler que, comme on l'a écrit, nous, on soutient notre camarade qui est en prison, et puis tous ses camarades à lui aussi qu'on connaît pas et qui sont aussi impliqués dans cette affaire. Et voilà, nous, on lui réaffirme notre soutien sans faille et on l'oublie pas, quoi.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.